manosque de ministres pour une concertation régionale.
Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et Elisabeth Borne, ministre de la transition écologique et solidaire, étaient dans la cité de Girno pour une après-midi de travail. Elles ont animé et assisté à une concertation régionale pour l'élaboration du projet de loi 3D pour décentralisation, différenciation et déconcentration. Dans la salle, une centaine d'élus venus de toute la région pour proposer idées et aménagements autour des politiques de la vie quotidienne, maires, présidents d'intercommunalités, conseillers régionaux et départementaux, ainsi que des services de l'État ont donc planché sur quatre ateliers thématiques: la lutte contre l'artificialisation des sols, puis l'adaptation au changement climatique, également le développement des énergies renouvelables et enfin la différenciation et l'expérimentation territoriale. L'objectif est de transformer les relations entre l'État et les collectivités territoriales sans pour autant créer un nouveau Big Bang territorial. Des travaux studieux et des échanges fructueux qui donneront, je l'espère, une loi en phase avec les citoyens et leur territoire. Je vous propose d'écouter les deux ministres en préambule aux ateliers, ainsi que le président du conseil régional, Renaud Muselier, à l'heure où le contrat de plan État-Région est en discussion. Jacqueline Gourault, quel est l'objectif de cette réunion ?
C'est au fond d'écouter le terrain, d'écouter les élus de terrain, la société civile, en ce qui concerne un projet de loi qui s'appelle 3D, c'est-à-dire décentralisation, différenciation, déconcentration. Et je fais au fond un tour de France pour expliquer la démarche que le gouvernement entend faire et expliquer le sens de cette loi et donc demander l'avis du terrain.
Vous avez remarqué l'intervention du président du département des Alpes-de-Haute-Provence et il y avait un mot-clé, c'est proximité.
Bien sûr, le mot-clé, c'est la proximité. C'est d'ailleurs tout l'enseignement que nous avons pu tirer d'une crise, la crise des Gilets jaunes, qui était au fond l'expression de demande de plus de proximité. Et évidemment, le gouvernement entend répondre à cette demande. Et quand je dis entend répondre, répond déjà à cette demande. Je pourrais vous citer plusieurs politiques publiques. Prenons par exemple France Service, qui est de remettre au plus près de nos concitoyens des espaces uniques où ils trouveront beaucoup de services publics, avec des services publics de qualité qui répondront à leurs besoins quotidiens.
Les gens qui sont présents pour ces ateliers sont tous des élus quasiment ?
Ce sont des élus, bien évidemment, également des représentants du Césaire et également des citoyens qui font partie des conseils citoyens.
Quel est l'apport justement des conseils citoyens dans vos réflexions ?
Ah ben, elles sont très importantes parce que c'est pour eux que nous travaillons, c'est pour le citoyen. Quand nous disons plus de services publics sur les territoires, c'est pourquoi ? C'est pour que les citoyens trouvent la réponse à leur demande de changement de carte grise, au montage de leur dossier pour la retraite. Le service public, c'est aussi avoir une réponse sur une question administrative qu'ils ne connaissent pas. C'est aussi l'inclusion numérique, parce que ça, c'est très important. Il y a dans notre société un développement du numérique qui est très important, mais on sait qu'il y a environ 15%, voire 20% dans certaines régions, des gens qui ne sont pas à l'aise avec le numérique. Et c'est d'abord l'accompagnement et puis aussi la formation.
Elisabeth Borne, vous êtes en charge de la transition écologique et solidaire et vous avez parlé du combat du siècle.
Ben, je pense qu'effectivement, réussir cette transition écologique et solidaire, c'est un défi considérable. L'objectif, c'est d'être neutre en carbone en 2050. Donc ça veut dire ne plus émettre plus de gaz à effet de serre que ce que la nature s'est absorbé. Et donc ça suppose vraiment une action conjointe de l'État, des collectivités, des entreprises, des citoyens. On n'a pas le choix, il faut absolument arriver à cette neutralité carbone, sinon le dérèglement climatique qu'on constate partout, et spécifiquement dans cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur, deviendrait absolument insupportable et on serait sur une planète invivable. Donc on doit réussir ce défi, et on le réussira en travaillant ensemble, l'État, les collectivités, les entreprises, et grâce à la mobilisation des citoyens.
L'État peut être justement moteur dans ce domaine ?
Alors l'État doit être moteur dans ce domaine. L'État fixe des cadres nationaux. C'est par exemple la loi énergie-climat qui prévoit de sortir des passoires thermiques, ces logements très énergivores dans lesquels vivent beaucoup de nos concitoyens. C'est aussi le sens de la loi mobilité qui vise à donner aux élus des nouvelles réponses pour la mobilité dans tous les territoires, pas simplement dans les grandes villes. C'est aussi le sens de la loi anti-gaspillage qui a été votée aussi définitivement adoptée ce début d'année et qui donne beaucoup d'outils, évidemment pour mieux gérer les déchets, mais surtout pour éviter d'en produire, qui donne des indications aux consommateurs pour acheter des produits qui sont les plus vertueux en termes d'environnement, et puis de passer d'une logique du tout jetable à une logique, au contraire, où on répare, on recycle, on réemploie, plutôt voilà, que d'épuiser les ressources de la planète. Donc l'État pose ses cadres, ces outils pour les collectivités, puis il met en place aussi des mécanismes très concrets, hein, comme la prime à la conversion, vous savez, qui va permettre qu'un million de ménages passent à une voiture moins polluante. Donc l'État accompagne financièrement. C'est aussi le forfait mobilité que les entreprises mettront en œuvre au cours du premier trimestre. Donc c'est beaucoup d'outils, c'est la prime à la rénovation pour les logements. On multiplie les outils pour aider les Français, pour accompagner les collectivités et les Français dans cette transition écologique.
Ici même à Manosque, Madame la Ministre, on vous a présenté le dossier E-Green Provence, autrement dit la production d'hydrogène vert qui pourrait se faire ici même à Manosque avec un stockage à géométhane. Qu'en pensez-vous ?
Alors je pense que c'est un projet très intéressant parce que l'hydrogène, c'est certainement une des réponses pour la transition énergétique. Vous savez qu'on aura de plus en plus d'énergie renouvelable. Ces énergies, elles sont intermittentes, comme on dit. Donc on a besoin de pouvoir notamment stocker de l'énergie grâce à l'hydrogène. Et puis assez rapidement, on doit pouvoir injecter de l'hydrogène, verdir, on va dire, le gaz que l'on consomme, y compris en injectant de l'hydrogène vert. Donc on a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour que tous ceux qui ont des beaux projets comme celui-ci se manifestent, pour qu'on puisse les accompagner, les soutenir dans ces projets.
Bruno Muselier, vous êtes président de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et également le président de l'Association des régions de France. Que pensez-vous de cette concertation aujourd'hui ?
Cette concertation est une très bonne chose. Ça change complètement de l'action du gouvernement depuis le départ. C'est la première fois qu'il se déplace pour écouter dans le cadre d'une programmation d'une loi. On a eu 2 ans très très compliqués avec le gouvernement qui nous a amené aux gilets jaunes quand même. Et donc si un changement de méthode, tant mieux. Et nous, on y est très favorables. Maintenant, dans ce changement de méthode, il y a en même temps, pour nous, les régions, 3 périodes très importantes. 1, les fonds européens dans la négociation européenne. On parle quand même de 1 000 milliards d'euros et de 3 milliards d'euros pour la région. Donc, il faut que ça fonctionne. Et aujourd'hui, ça est possible. 2e volet, c'est le contrat de plan État de région. Et là-dedans, ils doivent intégrer les mobilités, ils doivent intégrer la santé. Il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas écrites dans la prémission, mais qui est indispensable de traiter. Et ça donnera l'accès aux 3C avant les 3D. C'est ma formule qui permet de dire avant le D, il y a le C. Et les 3C, ça sera la confiance, la clarification et les compétences. On ne demande pas un Big Bang territorial. On veut savoir qui fait quoi et qui le paye.
On a tendance parfois, est-ce qu'il y a une opposition et parfois même une confrontation entre le pouvoir régional et l'État ?
Non, il ne faut pas. Il y a un État français et vous avez des parlements régionaux. Ça existe dans toute l'Europe, hein. C'est pas antinomique. Mais la réalité, c'est que l'État doit faire le régalien et pas des choses qu'ils ne peuvent plus payer pour nous contrôler. Ça marche plus. C'est plus possible.
Alors le contrat de plan État-Région, vous l'avez dit, il y a quelques manques, notamment la santé. Et on sait très bien sur les territoires combien la santé est importante.
Ben voilà, vous avez parfaitement raison de souligner ces démarches. C'est très simple. Nous sommes avec Christian Esrosi ici dans la région. On a ouvert, depuis qu'on est là, 67 maisons de santé sur les différents territoires. On a mis en place des moyens financiers pour payer le SAMU régional. Intervention, hélicoptère, etc. Et c'est nous qui le finançons. Pourquoi on ne peut pas le mettre dans le contrat de plan, ça ? C'est pas dans les compétences de la région de s'occuper de la santé. Pourtant, c'est dans l'obligation morale. Donc, je suis médecin, donc je sais de quoi je parle. On a l'obligation d'intervenir. Et donc, on voudrait que ce soit, par exemple, dans le contrat de plan État-Région. Le problème des déchets, par exemple, la totalité des déchets, c'est pas dans le contrat de plan. Pourtant, l'activité économique avec le traitement des déchets, c'est dans la loi NOTRe. Pourquoi c'est attribué dans le cadre de la loi NOTRe qui nous donne une forme de décentralisation et ce n'est pas dans le contrat de plan qu'on doit signer l'année prochaine ? Il y a une incohérence, là. Ces incohérences, on voudrait quand même bien les mettre à plat.
avec l'Association des régions de France. Vous avez des contacts réguliers avec les autres présidents. Les problèmes sont pareils dans les régions de France ?
Oui, ils sont globalement identiques. Alors, vous avez des territoires plus ou moins difficiles à traiter. Vous savez, quand ils ont fusionné des régions où il y a 13 départements, c'est plus compliqué que dans la nôtre, où il n'y en a que 6, où on a l'habitude de traiter ce problème-là. Ils ont des problèmes de distance aussi qui sont difficiles à traiter. Pour autant, sur le plan de responsabilité politique, c'est-à-dire institutionnelle, les lycées, les transports, l'économie, il n'y a aucune différence. On est exactement dans la même mécanique.